Bon vendredi, Vanessa, comment ça va?
Ça va super bien. Bon matin, malgré une petite pluie.
Ben
Un bel
ouais.
invité que j'ai appris à connaître dans les derniers jours. J'ai lu plein de choses sur elle. Ça va être vraiment un beau podcast.
Ouais, mais c'est le fun ça, découvrir des nouvelles personnes, parce qu'on s'informe
Vraiment,
justement avant, faut faire nos recherches, là. Tu sais, c'est le fun de
ouais. Ouais,
découvrir du monde comme ça.
puis c'est un beau modèle en lien avec le poste que j'occupe à Baseball Québec, coordonnatrice du développement et leadership féminin. Je pense que là-dedans, ça inclut aussi montrer des beaux modèles féminins, puis je pense qu'on en a un ce matin assez inspirant.
Tout à fait. Elle est pas vieille, elle a beaucoup d'expérience. Fait que j'ai bien hâte qu'elle nous parle de tout ça. Je pense que ça va être super intéressant pour les gens qui la connaissent pas. Fait que je pense qu'on va aller la rejoindre. On va faire une petite pause de 10 secondes à peu près. On revient, puis Rosanne Jolie va être là.
Super.
Play ball!
Salut, Rosanne.
Allô, Jeff, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, super.
Très content de te reparler. On s'est déjà parlé dans le passé.
Ouais.
Je te présente Vanessa, ma collègue des vendredis matins.
Enchantée. Bon matin.
Trouve ça super cool de vous parler ce matin aussi les deux ensemble. Vanessa, comme tu viens de le dire, ton rôle avec le nouveau rôle depuis cet été de Rosanne, je trouve que c'est quand même un bon sujet ce matin. Je suis très content.
Oui, puis moi, je connais pas beaucoup Rosanne, mais là, j'ai lu pas mal sur toi, les articles, ton parcours. Très impressionnée. Je trouve que tu es un beau modèle. Mais là, on est dans un podcast de Baseball Québec, donc j'imagine qu'il y en a une couple qui nous écoute qui te connaissent pas. Fait que parle-nous un peu de toi, de ton parcours d'athlète, puis la transition peut-être aussi, là, qu'est-ce que
Ben là, ouais. Donc, sans cours, là, je suis
tu fais?
présentement l'entraîneur en chef intérim du basketball féminin à l'Université d'Ottawa. J'avais été l'entraîneur adjoint pendant 3 ans, l'entraîneur adjoint à temps plein pendant 3 ans, là, de 2017 à 2020. Puis là, mais la pandémie, elle a commencé en mars 2020. Malheureusement, pour moi, ça a quand même été positif, là, parce que pas longtemps après, j'ai été offert un contrat avec la NBA. Il y a une branche de la NBA qui est internationale, puis sous cette branche-là, il y a les écoles de la NBA. J'ai été invitée, dans le fond, à devenir entraîneur et coordonnatrice des opérations à Dubaï. Puis en toute honnêteté, je connaissais pas Dubaï avant même d'être offert l'emploi à Dubaï. Mais j'ai adoré ça. J'ai été là pendant 8 mois. Ça a été vraiment une belle expérience. Pour moi, c'est la première fois que je vivais à l'extérieur de ma petite ville natale de Gatineau. J'ai vraiment vécu une super belle expérience là-bas. À la fin de mon contrat, ben en fait, c'était pas mon contrat. Mon contrat était ouvert. Moi, je pensais que je déménageais là. Je commençais une nouvelle carrière. Ils voulaient développer plein d'écoles de la NBA au Moyen-Orient. Puis finalement, l'entraîneur-chef à l'Université avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans a décidé de prendre sa retraite un peu de façon spontanée. Là, ça a été fait vraiment de dernière minute. L'université savait pas si qu'est-ce qu'on ouvre le contrat, mais il est rendu tard dans l'été. Les étudiantes athlètes, ils ont besoin de support maintenant ou est-ce que, tiens, on y va avec un entraîneur intérim pendant un an? Fait que j'ai eu le plaisir d'être nommée entraîneur intérim.
Est-ce que c'est ça qui t'a fait revenir?
J'étais en décision si je restais à Dubaï pour une année de plus ou pour moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la communauté. C'est une de mes valeurs principales. Puis j'ai trouvé ça difficile d'être à Dubaï puis de recommencer un peu une vie à zéro parce que je connais pas les gens là-bas. Je trouve pas que j'ai un impact. Mon impact est pas comme premier sur la communauté. Fait que j'étais en décision, tu sais, si je retournais parce que je réalisais que j'avais pas. J'avais du unfinished business un peu à Gatineau, au Québec, puis j'avais le goût de revenir, mais je savais pas c'était comment que les étoiles allaient s'aligner. Puis là, finalement, ben, l'entraîneur-chef a pris sa retraite, puis ça a été la raison de mon retour. Hein.
J'ai envie de t'entendre parce que tu parles de Dubaï, c'est quand même, il y a deux choses là-dedans. Un, tu as travaillé pour la NBA, puis Dubaï. C'est deux choses quand même le fun. Puis une femme à Dubaï aussi, une femme dans la NBA. Parle-moi de ton expérience un peu globale de tout ça, là. Qu'est-ce que tu faisais là-bas aussi?
Ouais, ben j'ai été ça a été super rapide là. J'ai eu un appel comme le 25 août. Puis le 10 septembre, j'étais dans un avion. Fait que, je m'étais pas comme 100% renseignée sur tout ce qui allait se passer de là-bas. Puis je sais que ma crainte numéro un, puis c'était pas une crainte parce que évidemment là, tu sais, je suis une femme, je travaille dans le monde du sport depuis super longtemps. J'ai travaillé à Football Canada pendant des années, j'ai travaillé à Natation Canada, puis comme entraîneur, tu sais, bénévole même avant de devenir entraîneur à temps plein. Puis je sais comme l'énergie que ça prend. T'sais, d'être une femme puis travailler dans le monde du sport. Ma seule crainte, c'était un peu la perception d'une femme dans une position d'entraîneur au Moyen-Orient. Puis j'ai été comme agréablement surprise. Un, parce que Dubaï, c'est pas une représentation vraie du Moyen-Orient. C'est 80% de la population, c'est des expats, c'est des gens qui viennent pas du, ben, pas nécessairement qui viennent pas du Moyen-Orient, mais qui sont pas de Dubaï. Ils viennent de, j'ai rencontré des gens de l'Europe, j'ai rencontré plein de Canadiens. Des fois, je coachais en français, c'était vraiment cool. Il y a beaucoup de gens de l'Afrique, beaucoup de gens d'un peu partout. Fait que j'ai vraiment été agréablement surprise, pardon, parce que j'y ai pas personne qui a douté de, ben, pourquoi mes enfants se font entraîner par une fille. J'ai eu, comme je trouve que j'ai eu le respect dès le début, puis la NBA m'ont quand même super bien encadré de cette façon-là. Puis ils voulaient, eux, c'est vraiment, ils voulaient un entraîneur féminin quand que la position allait ouvert. Mais c'est ça, les jeunes étaient vraiment cool. La seule chose que j'ai réalisée, là, que je trouvais que, comme il y avait un peu d'éducation que je devais être patiente avec, c'est que les jeunes rentraient dans le gymnase, puis moi, j'étais pas coach. Moi, j'étais madame.
OK.
Mais je pense que c'est quelque chose que aussi au Canada, un peu partout dans le monde, la femme qui rentre dans le gymnase, qui est l'entraîneur, ça sera pas. On va me dire, on va m'appeler par mon prénom.
Ouais, on n'en voit pas assez.
On va dire madame, c'est ça. Ouais. Il ne m'appelait pas coach. Tandis que quand mes deux collègues masculins rentraient dans le gymnase, mais automatiquement, c'était hi coach! Hi coach! Okay. Puis moi, je rentrais en arrière, puis c'était comme hi miss! Un petit peu d'éducation de ce côté-là.
Ouais, okay. Toi, dans le fond, tu as été joueuse avant d'être coach. Ta carrière de joueuse, ça ressemble à quoi?
Oui, j'ai commencé vraiment tôt, dès le primaire. Là, j'ai vraiment une passion pour le basketball. Pour moi, c'était juste naturel, entrer dans un gymnase puis avoir un ballon dans les mains. Puis ça m'a suivi, là, cette confiance-là m'a suivi sur le terrain pendant super longtemps. J'ai joué, puis je suis restée dans ma ville natale toutes ces années-là. Je suis restée à Gatineau. J'ai joué pour Nicolas Gatineau Sport Études. Après ça, il y avait un programme à Nouvelle Frontière. Puis j'ai joué un an à l'université. Ouais, mais ma carrière là, d'étudiante athlète s'est terminée parce que j'ai subi deux blessures au genou, ligament croisé antérieur. Puis une réhabilitation du ligament croisé, c'est quand même assez long. Fait que j'ai été un an sans jouer en réhabilitation. Puis là, quand je suis retournée au jeu, quelques mois plus tard, je me suis redéchirée. Donc, j'ai subi deux opérations et tout ça. Fait que pour moi, c'était le temps de faire la transition. Puis la transition, elle a été difficile. Là. J'en parle avec beaucoup d'athlètes. Je sais que dernièrement, il y a une couple d'années passées, il y avait un programme qui était parti qui a commencé à Montréal. J'ai perdu un peu le fil, là. Je sais pas si ça existe toujours, mais il y avait un programme qui supportait les étudiants athlètes qui graduaient spécialement universitaires après avoir dépensé tellement plein d'énergie et de temps de façon positive là, dans le sport, puis d'être parti. T'sais, de faire partie d'un environnement sportif, d'avoir une famille, de voyager, de faire dire, OK, ben du lundi au vendredi, tu fais ça, d'être tellement structuré, puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Moi, je l'ai vécu, là, ça a pris un 2-3 ans de remise en question, d'essayer de trouver mon identité, de savoir ce que je voulais étudier, parce que dans le fond, moi, après ma première année universitaire, je me suis reblessée, puis moi, j'allais à l'école parce que j'aimais jouer au basket, c'était pas l'inverse. Fait que ça a été un long processus, là, mais aussitôt que j'ai comme fait la transition d'étudiante athlète à entraîneur, mais il y avait au moins cet environnement-là que je connaissais puis qui me passionnait beaucoup, mais j'avais jamais cru un jour que j'allais devenir entraîneur à temps plein.
C'est fun parce que ce que tu dis, moi, je l'ai vécu aussi en tant que joueuse. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de jouer, puis j'ai arrêté de jouer parce que j'ai eu un premier enfant. Fait que on dirait que d'être maman, là, la job, tu sais, exactement ce que tu viens de dire, j'ai eu quand même assez difficile. Puis encore aujourd'hui, Kim, t'as l'air en forme, pourquoi tu rejoues pas? Puis, hey, dis-moi pas ça, tu sais, c'est difficile, mais t'as bien raison. Puis de joueuse à coach, les femmes se sentent souvent imposteurs, là, un peu comme t'en parlais, tu sais, on n'est pas souvent habitué de voir des femmes coach, surtout du niveau que tu coaches universitaire. Puis, Comment as-tu vécu, tu sais, la transition, mais surtout, qu'est-ce qui t'a donné confiance de faire cette transition-là? Tu sais, on est joueuse, OK, on sait jouer, mais là, t'as un peu, là, c'est moi qui coach, puis c'est moi qui prends les décisions, puis, tu sais, y'a-tu quelqu'un qui t'a donné confiance ou qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ah, moi, je suis capable de faire ça, coacher?
C'est une excellente question. Pour vrai, qui m'a donné la confiance de faire ça? Je pense que comme quand j'étais à Nicolas-Gatineau en ma dernière année secondaire, nos entraîneurs à nous, ils nous disaient, tu sais, c'est super important d'être impliqué dans la communauté, de, tu sais, le programme Nicolas-Gatineau, on est une famille, on veut supporter la fin de semaine, est-ce que tu peux faire, tu sais, la feuille de match, est-ce que tu peux faire ci? Il y a des équipes au niveau secondaire 1 qui ont mentionné les entraîneurs. Fait que j'ai commencé à entraîner un jeune okay. âge. Ça a vraiment pas bien été, même expérience. J'avais 16 ans. Je coachais des filles de secondaire 1 qui étaient l'équipe, tu sais, je pense la quatrième équipe Benjamin. Fait comme, tu sais, beaucoup de problèmes de comportement, puis c'est sûr, là, puis j'étais vraiment pas équipée pour gérer ces situations-là. Fait que ça a été difficile, mais ça a été comme clairement une année d'expérience puis d'apprentissage. Puis après ça, j'ai pris 2-3 années de congé de coaching à cause de que je jouais comme collégiale universitaire, mais en fait, moi, je me suis jamais vraiment posé ces questions-là de, tu sais, comme... J'ai tout le temps trouvé ça un peu difficile, spécialement quand que les entraîneurs sont masculins, mais tu sais, je pense il y a une partie que c'était moi qui se mettait cette pression-là, ouais. De tu sais, j'ai peur de prendre la parole, c'est ça un peu ça là, de tu sais, je suis pas gênée, mais tu sais, je veux m'assurer que je connais tout pour être capable de ouais. prendre la parole puis de dire quelque chose, puis ça a été ça comme tu sais toutes mes années, même avec l'entraîneur à l'université à Ottawa, j'ai été entraîneur adjoint pendant 3 ans. Puis la première année, je me souviens, j'étais vraiment juste observatrice. Comme je voulais m'assurer que je connaissais tout l'environnement, toute la structure offensive, toute la structure défensive de A à Z avant de dire quelque chose parce que j'avais peur d'aller à l'encontre de comme sa philosophie puis tout ça. Puis je pense que je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Puis le basketball, c'est une game d'erreurs. Ouais. C'est tout le temps essayer de gérer comme qu'est-ce qui se passe sur le terrain et tout ça. Puis, c'est correct de faire des erreurs. Puis c'est correct que les étudiants athlètes questionnent aussi les raisons puis le pourquoi derrière ouais. les exercices puis derrière les décisions que tu prends. Puis c'est là où est-ce que ça devient intéressant d'avoir cette relation-là avec les étudiants athlètes. L'universitaire, je l'ai plus parce que leur développement il est plus développé. Le développement il est plus profond puis tout ça. Mais tu sais, je pense que c'est juste d'y aller puis de pas avoir peur de faire des erreurs. Puis c'est correct que les gens questionnent. Puis en même temps, mais ça développe. En même temps,
tu as déjà mentionné que tu étais une joueuse offensive. Ouais. La transition comme coach, est-ce que ça peut être ça un peu de vouloir connaître l'aspect de A à Z parce que tu étais tellement offensive, puis tu l'as déjà avoué là, en tout cas, dans un autre podcast, là, que le côté défensif t'intéressait pas mal moins. Fait que d'arriver comme entraîneur, puis d'enseigner ça, puis de vouloir que tes joueuses respectent ça, puis tout ça, ça a été... C'est-tu pour ça que tu veux savoir la game au complet avant de l'entraîner? Parce que tu connais l'importance de la chose.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un mélange de... Tu sais, je suis quelqu'un, tu sais, même à l'école, tu sais, des présentations puis tout ça, là, je devais être prête à 100% pour être confiante pour le faire devant une classe, mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que c'est vrai, j'ai tout le temps été plus attirée par le côté offensif, mais le basketball, tu sais, t'es obligé de jouer à l'attaque puis de jouer à la défense. Mais aujourd'hui, je suis un entraîneur qui est plus poussé vers le défensif. Puis j'ai eu cette conversation-là avec mon entraîneur adjoint justement hier. En pratique, comme tu sais, j'ai demandé, tu sais, toi, est-ce que tu peux avoir plus un regard sur l'attaque puis faire les correctifs sur l'attaque? Puis moi, je me concentre sur la défensive ou c'est quand on fait du 55 en pratique, est-ce que tu vas avoir une équipe? Parce que moi, j'ai une équipe. Là. Puis elle me l'a dit, elle a dit, toi, je sais que tu as un regard plus vers la défensive, moi je vais prendre l'attaque. J'étais comme cool, parfait. Mais ouais, je pense pas que c'est. Ouais. Je pense que c'est du fait que j'ai besoin d'être 100% préparé pour.
Mais c'est cool. C'est comme là, je veux pas comparer les deux, là, dans le sens que quelqu'un qui est strictement offensif, un peu à la Wayne Gretzky, d'enseigner la défensive, c'est comme oh ouais, OK. T'sais, fait que tu étais très offensif comme joueuse, puis là, tu es contente d'enseigner la défensive.
Ouais.
Puis t'as à prendre le relais pour enseigner l'offensive dans une pratique, dans un match, tu es capable.
T'sais. Ouais.
Fait que c'est super cool ça.
Ouais. Mais tu sais, je joue encore pour le fun des fois, puis mon focus a changé aussi. Je pense parce que j'ai aussi peut-être, là, honnêtement, il y a peut-être un lien à faire avec ça aussi, avec les entraîneurs, comme au niveau secondaire, qui sont pas nécessairement, tu sais, c'est des entraîneurs bénévoles, puis ouais, ils font des choses extraordinaires, puis ils dévouent leur temps à ça. Mais les entraîneurs au niveau secondaire sont pas nécessairement comme vraiment développés pour enseigner tout. T'sais, enseigner pour s'assurer que les étudiants athlètes soient prêts à passer au niveau cégep qu'au niveau universitaire. Puis je pense que la plupart de mes entraîneurs, ils ont souvent eu un focus plus sur l'attaque. Et ça se peut que, tu sais, juste que rendu universitaire, je préférais comme scorer des buts que jouer à la défense.
Tu as vécu une expérience avec les Raptors. Ça t'a donné le goût de travailler dans ce monde-là vraiment plus près d'une équipe de la NBA? Tu peux-tu nous parler de cette expérience-là? Moi, être invitée à faire un stage dans une équipe de la MLB, je triperais, là.
Ouais, c'était fou. C'était vraiment cool comme expérience, pour vrai. Puis c'est drôle comment les médias sociaux, des fois, ils font bien les choses. Là. Des fois, faut faire attention aux médias sociaux, mais il y a une couple d'années passées, j'étais assise sur mon fauteuil. Je me souviens, j'étais tellement comme brûlée. C'était la fin d'une saison. On venait de finir troisième au championnat national. J'avais besoin, tu sais, des semaines pour récupérer parce que la saison de basket, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas c'est quoi l'ampleur d'être entraîneur ou entraîneur adjoint, là, l'énergie. Puis, tu sais, c'est pendant la saison, c'est 60-70 heures de travail. Puis on se réveille à 2-3 heures du matin parce qu'on n'arrête pas de penser à plein d'affaires. Je me souviens, j'étais en train de relaxer, j'étais dans mon fauteuil, la saison était terminée, puis il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram pour me dire « Hey, on se connaît pas, on s'est jamais rencontré, je te suis sur les médias sociaux, je trouve ça vraiment cool, peut-être que tout ce que tu fais. Il y a un programme avec les Raptors de Toronto qui existe, qui s'appelle le Win Embry. Je viens de voir la vidéo, ça m'a tout de suite fait penser à toi. Je pense que tu as les capacités ou t'as des grandes chances de participer puis de gagner. Puis je regarde la vidéo puis je tombe en amour avec la vidéo. C'était tellement cool. Dans le fond, c'est un programme de un an sur une rotation. Fait que dans le fond, il te rencontre. Puis il te demande, OK, ben toi, tes intérêts sont plus le coaching, sont plus le scouting, est-ce que c'est plus le front office? Puis après ça, ils font un espèce de un an développé sur comme tes intérêts, mais en même temps, tu sais, mettons, si moi, le coaching, c'est ce qui m'intéressait le plus, j'avais plus de temps avec les entraîneurs, mais je comprenais aussi, mais je passais aussi du temps avec les gens du marketing ou les gens qui commandent les vêtements, ceux qui font les pratiques, ceux qui font le vidéo. Ouais, c'est ça, c'est un programme d'un an vraiment cool, puis c'est rémunérant en plus. Hein. Je pense, j'ai l'impression qu'il y a tellement plein de gens qui, même si c'était pas... Et pourquoi j'avais les capacités de remporter ce concours-là. Puis j'ai été choisie parmi les huit finalistes. Okay. Puis j'ai été invitée au View Center. Le View Center, c'est où est-ce que vraiment juste les gens des Raptors de Toronto, comme pas le...
juste les bureaux, là.
Non, c'est ça. C'est le gymnase de pratique. Il y en a deux, comme c'est... puis c'est juste les gens des Raptors. Comme il y a... j'essaie de me souvenir c'est quoi le terme à Toronto là, qui sont comme par-dessus les Raptors puis les Maple Leafs puis tout ça là, le centre entertainment là. Et comme là-bas c'est vraiment juste les Raptors, tu sais, les athlètes où est-ce qu'ils font la nourriture parce que les athlètes ils sont nourris trois fois par jour puis tout ça, puis c'était tellement super impressionnant, puis j'ai passé trois jours là-bas. C'était hyper stressant aussi. C'était non-stop là, tu sais, on devait faire ils nous ont envoyé un mois avant 8 sujets, on devait choisir un sujet, on devait préparer une présentation 10 minutes. Puis ils ne donnent pas plus de détails, mais tu sais, c'est toi qui dois te démerder. Tu dois te débrouiller. Tu dois te débrouiller pour comme tu sais, avoir l'air d'avoir de l'initiative. Puis,
la présentation, c'est devant qui?
C'était devant comme moi cette année-là, malheureusement, ma salle, le président n'était pas là, mais c'est devant les entraîneurs. C'est devant comme c'était devant 20 personnes que je ne connaissais pas. Mais que je savais, tu sais, la vice-présidente des Raptors Nanofab, des Raptors étaient là, les gens des Raptors Nanofab étaient là. Comme, c'était super stressant, mais c'était tellement cool. Puis là, honnêtement, c'est là où est-ce que j'ai réalisé que mes connaissances étaient valides. Ouais. Puis que j'étais pas loin des connaissances des gens qui coachent dans la NBA ou qui sont développeurs de joueurs ou qui font du vidéo. Comme j'ai fait ma présentation, puis il y a pas, tu sais, ça a été une espèce de silence pendant 10 secondes des gens qui ont juste comme pris l'information puis en fait comme ok, comme assez de quoi qu'elle parle, comme c'était cool comme présentation. Puis ils ont commencé à poser 2-3 questions, puis comme ça m'a juste donné un espèce de gros nuage de confiance pour les prochaines années, comme jusqu'à aujourd'hui, hein, de savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour la NBA ou qui travaillent pour la G League, qui ont apprécié la présentation que j'ai faite, avec qui j'ai encore vraiment beaucoup de contacts. J'étais au téléphone la semaine passée avec l'entraîneur-chef des Raptors dans nos facts. C'est le fun. Je sais pas si c'est un emploi un jour que je vais avoir avec la G League ou avec la NBA. C'est une possibilité. Je dirais jamais non à une opportunité comme ça. Pour moi, c'est difficile de voir à long terme plus loin qu'une saison de basketball à la fois, mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité un jour, je vais sauter dessus.
Ton poste, justement, j'imagine, c'est ça que j'allais poser. C'est un tremplin pour toi parce que pas l'objectif, là, mais s'il y a des opportunités qui se présentent, c'est un méchant beau tremplin présentement d'être entraîneur en chef.
Oui.
Même si c'est par intérim.
Même si c'est par intérim, exactement. C'est un an que je trouve, je vis plein d'émotions là, depuis que j'ai été nommée entraîneur intérim. C'est super excitant, c'est cool comme opportunité, mais c'est stressant. Ça vient avec beaucoup de responsabilités parce que quand on est entraîneur-chef, on fait pas juste arriver sur le terrain puis on fait les X and O's, là, l'expression qu'on dit. Je t'en charge d'un budget, je t'en charge du recrutement, même si ça se peut que je sois ici juste pour un an. Fait que, tu sais, je suis en charge de la, tu sais, advenant qui décide d'y aller avec un autre entraîneur l'an prochain, je suis quand même en charge de la progression. Ouais. Du programme pendant un an, m'assurer que ça reste à un certain niveau parce que ça fait une couple d'années, ça fait 5-6 ans que le programme est dans le top 10 canadien. Fait que ça vient avec beaucoup de responsabilités puis ça vient avec un stress. Mais j'essaie de voir le côté positif des choses, puis jusqu'à présent, ça va bien.
Tant mieux.
Puis tu as lancé Basket Plus, tu veux-tu nous en parler?
Ouais, Basket Plus, je suis triste là parce que ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu d'activité avec la COVID, mais en gros, justement pendant ma crise d'identité qu'on en parlait un peu plus tôt, je savais plus qu'est-ce que je voulais étudier, je savais plus c'était qui Rosangeli, je savais plus qu'est-ce que je voulais faire, fait que j'ai commencé à faire du bénévolat. Au début dans la région à Gatineau, puis là, éventuellement, je commençais à appliquer comme sur des opportunités qui étaient à l'extérieur de Gatineau. Je voulais commencer à voyager avec le basket. C'est super cool de faire partie d'une équipe sportive. Puis, avec le basket, j'ai eu souvent des entraîneurs où est-ce que c'était 12 mois par année puis tout ça, mais ça t'enlève un peu l'opportunité de voyager, puis connaître le monde extérieur. Puis moi, j'avais pas vécu ces affaires-là. Fait que j'avais le goût de vivre des voyages. J'ai commencé à appliquer, puis j'ai commencé à faire du bénévolat à Canada Basketball à l'extérieur, à Edmonton, où j'avais été affiliée avec l'équipe de l'Argentine. Puis tout ça fait que j'ai commencé à avoir comme un peu le goût de voyager puis de rencontrer des gens de d'autres cultures. Puis j'ai fait un jour un voyage en Afrique, au Togo, pour aller rencontrer un organisme non lucratif là-bas, voir qu'est-ce qu'ils font, puis c'était super beau là comme voyage que j'ai fait. Mais quand je suis revenue à la maison, j'ai trouvé que c'était un peu égoïste parce que c'était super cher un billet d'avion pour aller là. Puis je trouvais que j'avais absolument rien fait autre qu'être là puis profiter du fait que j'ai de l'argent dans mon compte de banque puis je peux être là. J'aurais pu juste donner l'argent à l'organisme puis eux ils auraient pu offrir plus de bourses d'études à leurs jeunes parce que aller à l'école, je parle du Togo seulement, ça coûte pas cher, mais les parents sont pas capables d'envoyer tous leurs enfants à l'école. Puis ben malheureusement, s'ils ont un garçon puis une fille, puis ils peuvent juste envoyer un enfant, mais ils envoient les garçons. Bref, je suis revenue de mon voyage, puis je continue à penser à ce que je pouvais faire, puis je voulais vraiment développer un organisme à but non lucratif, mais je voulais pas faire quelque chose qui existait déjà, puis tout ça, puis finalement, je rappelle l'organisme au Togo, puis je leur demande comment ça va, puis à chaque année, ils font un événement annuel. Qui est strictement juste pour le basket, mais c'est juste pour remercier les gens de tous les villages puis donner cette opportunité là à des jeunes. Tu sais, juste voyager d'un village à l'autre. Là. Les jeunes sont même pas capables de faire ça. Fait que, tu sais, eux, ils offrent ça. Puis cette année-là, il disait qu'il n'y avait pas amassé assez d'argent pour construire un nouveau terrain de basket parce qu'ils essaient d'en construire un à chaque année pour offrir, tu sais, à agrandir leur opération, mais aussi offrir à plus de jeunes de d'autres villages ces opportunités-là. Puis ça m'avait brisé le cœur. Puis je commençais tout juste comme entraîneur bénévole à l'Université d'Ottawa à ce moment-là. Puis ça allait cliquer. J'étais comme, ah ben, pourquoi? Je suis comme, pourquoi cette année, on ne fait pas un projet avec l'Université d'Ottawa pour amasser les fonds, combien ça coûte? On va amasser les fonds, on va faire des campagnes de financement, puis l'an prochain, au moins, on va s'assurer que tu vas avoir un nouveau terrain de basket dans un de tes villages. Puis il a trouvé ça vraiment cool. C'est ça, c'est l'idée, elle a cliqué. Puis là, c'est tout venu ensemble. Je pense qu'à force... À force de faire du brainstorming, puis appeler à gauche puis à droite, puis j'ai travaillé aux affaires internationales quand j'étais plus jeune, quand j'étais aux études, puis parler à mes mentors, puis tout ça. Puis là, tu sais, c'était plein de feuilles partout, de plein de mots, puis de plein d'idées, puis de plein de trucs. Puis juste comme ça a cliqué un jour, puis tout est venu ensemble. Puis là, ben dans le fond, Basket Plus, on construit des infrastructures durables pour des organismes à but non lucratif qui sont déjà existantes, qui font du travail impeccables, qui font du super beau travail, qui supportent les jeunes au travers le sport, mais qui n'ont pas nécessairement l'aide financière qu'ils méritent. Mmh. Fait que dans le fond, on les rencontre, on leur demande c'est quoi leurs besoins, c'est quoi que les jeunes ont besoin, puis on met sur pied un projet avec un objectif financier, puis on associe une équipe universitaire pour faire partie de ce programme-là, puis ils ont un an pour amasser les fonds. Puis c'est nous, dans le fond, qui offre un gestionnaire de projet, puis les idées de campagne de financement. On gère un peu le tout parce qu'évidemment, les étudiants athlètes, ils ont une saison, il faut qu'ils aillent à l'école, sont équipés. Puis les entraîneurs, ils veulent pas faire ça non plus. T'sais, ils sont déjà débordés. Fait que nous, on offre cette opportunité-là. Fait que c'est une pierre deux coups où est-ce que oui, on supporte les organismes à but non lucratif qui font du super beau travail, mais on offre cette opportunité-là à des étudiants athlètes de faire partie d'un projet puis de voyager aussi à l'extérieur puis de rencontrer d'autres cultures.
Tu as mentionné tantôt que ça faisait un an et demi que tu n'avais pas eu de projet, mais si les gens veulent supporter la cause, est-ce qu'ils peuvent le faire quand même?
Oui, c'est ça, on espère vraiment, là, dans le fond. Ça l'a un peu ralenti, là, nos activités. Ça fait un an et demi, je suis vraiment triste parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, mais ça faisait 3 ans qu'on faisait un projet par année. On avait fait un au Togo, construction d'un terrain de basket, un complexe en Haïti, puis on allait tout juste terminer notre projet en Ouganda avec Ryerson, qui sont à Toronto. Puis on sautait à 2 projets l'année d'après. Puis là, on espérait, comme à chaque année, augmenter d'un projet de plus. Puis d'offrir aussi ça parce qu'on a eu des gens des États-Unis qui ont démontré l'intérêt qui voulaient faire ça. On a eu des gens, j'ai eu une équipe en Italie qui nous a envoyé un message qui voulait en faire partie aussi. On voyait que ça grossissait puis on voulait pas aller trop vite parce que ça peut du jour au lendemain, il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent détruire l'organisme au complet. Il y a beaucoup de responsabilités avec les voyages internationaux puis tout ça. Mais oui, si les gens ils veulent supporter le basketplus.org, on espère recommencer les activités en septembre 2022 avec au moins 3 projets. Fait que ça s'en vient.
Ouais. OK. Très cool. Le temps passe super vite, mais j'ai une question qui a été posée sur Facebook et j'ai pas le choix de la poser.
OK.
Qu'est-ce que tu penses du projet possible, d'une venue d'une équipe de la NBA à Montréal? C'est un projet qui est intéressant et qui est possible selon toi.
Oui. Pardon. Je pense qu'on va voir avec l'équipe de la CBL, parce qu'il y a une nouvelle équipe semi-pro qui s'en vient à Montréal, avec Annie Larouche, là, qui est la directrice des opérations. Je pense, tu sais, oui, c'est pas le même marché, on s'entend, puis leur saison est plus courte. Qu'est-ce qui est difficile avec le marché québécois, avec le marché à Montréal, c'est qu'évidemment, ben, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés avec le hockey. Hein, c'est pas une nouvelle. Ils vont avec les marchés, eux. T'sais, la NBA veulent remplir les estrades, puis leur objectif premier, c'est un revenu, c'est faire du profit. Je pense qu'il y aurait de l'engouement. Je pense que c'est sûr que quand les Raptors sont allés jouer, je pense que c'était Brooklyn Nets en 2018, je pense, en pré-saison à Montréal. Le stade était plein et tout ça. Je pense que la population va devoir démontrer qu'ils sont plus consistants puis qu'ils vont vouloir aller voir les matchs puis aller supporter l'équipe de Montréal. Mais le rendu là, tu sais, c'est comment qu'ils le font puis c'est à la NBA de faire le bon marketing. Tu sais, ce qu'on voit avec plus de joueurs canadiens, québécois, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs québécois dans la NBA. Tu sais, est-ce qu'on essaie d'y aller avec plus cet aspect-là, d'avoir plus de joueurs où est-ce que la population va pouvoir plus s'identifier, puis on va pouvoir remplir les estrades. Je sais pas si on est prêt à Montréal encore pour avoir une équipe de l'NBA, hein, malheureusement.
Mais ça serait
peut-être une équipe de la WNBA, par exemple.
Ah, peut-être. Ah oui, pourquoi pas. Rosanne, merci beaucoup. Pour vrai, ce matin, je suis super content parce que vous êtes deux modèles. On en parle souvent côté féminin, les femmes qui ne s'impliquent pas assez dans les hauts niveaux, dans le coaching, que ce soit comme toi, Vanessa, qui n'es pas coach, mais tu t'occupes du baseball, du volet féminin à Baseball Québec. Toi, tu t'impliques dans le coaching. Pour vrai, c'est vraiment cool. Lâchez pas les filles. Puis merci vraiment beaucoup pour ton temps ce matin.
Ah non, mais merci à vous pour l'invitation.
Merci, c'est Rosanne. C'est un plaisir de te rencontrer, pour vrai. Là. Belle inspiration.
Merci. Merci beaucoup, Vanessa.
Merci à tout le monde d'être là ce matin. Pour vrai, il y a des commentaires. On a partagé ton compte Facebook de Basket Plus. Donc, les gens qui veulent aller sur le site vont pouvoir soutenir la cause si ça leur tient à cœur. Les gens qui veulent revoir l'entrevue aussi, l'entrevue va être disponible en audio à partir de midi. Donc, gênez-vous pas sur Spotify. Merci tout le monde d'être là. On se revoit lundi. Bon week-end. Et encore une fois, Rosanne, merci beaucoup.
Merci. Bon week-end.
Bye-bye.
Membre de la famille H2O Web Media.